timeouts here for the Kings. Fox, two, Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox called game!
Three on two. Sabonis the trailer. Oh! Express yourself, Domas! Herter, brother Lee!
Just the best sound in basketball.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sacramento Talk. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré un petit podcast, mais là, on a vraiment de quoi faire. Il y a eu du contenu. On va parler essentiellement de la draft, de la free agency et commencer un petit peu à débriefer, faire des grandes lignes sur la Summer League. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir tout mon crew habituel avec un petit invité surprise en plus. Ben, je commence évidemment par mon co-admin sur le compte Twitter, qui est Laurent. Comment ça va, Laurent ?
Salut, bah écoute, tout va bien, il fait chaud, c'est l'été. qui gagnerait casse des gueules, tout va bien.
Voilà, la belle vie, quoi.
C'est ça, on n'a plus l'habitude.
On a notre ancien, il est là, c'est Flo. Comment ça va, Flo ?
Salut, ça va impeccable. Une intersaison très bizarre, on n'est pas stressé, la draft est passée, on s'est intéressé à personne, ça faisait tout bizarre.
C'est vrai que ça fait bizarre d'être serein pendant une intersaison quand même.
On a toujours été serein dans le sens où comme on s'attendait à rien.
C'est vrai. C'est aussi vrai. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir quelqu'un qui vient régulièrement sur nos podcasts et nos lives, c'est Simon. Comment ça va Simon, la forme ?
Ouais, ça va, merci. Et toi, ça va bien ?
Bah, tranquille. Hein. On est là, on va débriefer tout ça tous ensemble. Et puis, notre dernier invité, c'est Titouan. Si vous suivez le compte Instagram Kings France, depuis, c'est lui qui a tout géré cette saison, qui a produit tous les visuels, toutes les vidéos que vous voyez. Et donc, qui produit un boulot monstre sur le compte. Donc, si vous ne le suivez pas encore, allez-y. Il y a du contenu exclusif qui arrive en plus. Et voilà, donc on a le plaisir de l'accueillir pour la première fois sur le podcast. Comment ça va, Titouan ?
Bah, ça va bien, merci beaucoup déjà. Et ouais, tout va bien, c'est étrangement calme pour une fanbase des Kings pour une intersaison, donc pour l'instant tout va bien.
Bon, mais si, on va plonger direct dans le vif du sujet. On commence en par ordre chronologique avec la draft. Comme d'habitude, avec Monté McNair, on savait absolument pas à quoi s'attendre. Il y avait des rumeurs dans tous les sens. Il y avait des gens qui essayaient de prédire un peu ce qu'on allait faire. Et puis finalement, comme d'habitude, le monsieur nous a sorti un truc auquel personne n'avait pensé, à savoir que le pick 24, est parti. On l'a attaché à Richon Holmes et on l'a envoyé à Dallas. On a eu le pick 38 qui part de multiples échanges dont j'ai pas très bien suivi le fil. Je crois qu'il y a les Hornets et les Celtics impliqués. Quand je crois que le pick est tradé plusieurs fois dans la soirée. Enfin bref, on se retrouve avec le pick 34 pour sélectionner un certain Colby Jones, sur lequel on reviendra juste après, et puis le pick 54 qu'on a laissé tranquille, avec lequel on a sélectionné Jalen Slauson en provenance de l'université de Furman. Messieurs, juste comme ça, chaud, vous en pensez quoi de cette draft à première vue ? Qu'est-ce que ça a été quoi votre réaction le matin en voyant ça ?
Aucune. C'est bête, hein, mais... On a l'habitude de voir les 10 premiers choix, hein, ça fait un paquet d'années, mis à part 2019-2020 de mémoire. On avait pris Calgary et tout ça. Là, en fait, ce qu'on pouvait s'attendre, parce que c'est ce qui se balançait un peu dans les médias, c'est de trade ce fameux pick 24 pour aller chercher un top joueur, entre guillemets, de la ligue. Là, il y avait beaucoup de noms qui circulaient. Puis au final, bah, il en a rien. Voilà, McNair, il a fait le McNair, il a fait son taf, il a pris un joueur. Voilà, du standard.
Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on ne sache jamais ce que McNair prépare, qu'il n'y ait pas de fuite. On sent vraiment le staff, le front office, là, qui bosse vraiment à huis clos, qui ne laisse rien fuiter. Et j'aime beaucoup ça. Après, ouais, que le pic soit tradé, on pouvait effectivement s'y attendre. Moi, du coup, sur le coup, je me suis un peu emballé parce que j'espérais que le pick soit tradé. L'échange de Richon Holmes, ça voulait dire dégager beaucoup de cap space. Et donc, sur le coup, la première réaction, c'est voilà, qu'est-ce qui va nous préparer pendant la free agency et la période des trades.
Ouais, voilà, on a l'impression qu'il préparait vraiment le terrain pour la free agency, quoi, parce que ça a été. Il y a eu quand même des réactions mitigées, je crois, que ce soit dans la Kings Nation, que ce soit en France ou aux États-Unis, sur le trade du pick. On se dit, mais est-ce que vraiment ça valait le coup de balancer un pick de premier tour pour se débarrasser de Richaun Holmes? Bah, en soi, je pense qu'il n'avait pas vraiment le choix, en fait. Un contrat comme ça avec un joueur qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, t'es un peu obligé de. T'es un peu obligé de mettre une petite récompense au bout. Donc voilà. On l'a attaché à ce pick 24 qui est parti à Dallas. On espère que Dallas pourra relancer notre cher Richaun.
La question que je me pose, et vous allez réagir là-dessus, les gars, est-ce qu'il ne s'attendait pas à prendre le frère Murray? Et entre le pick 23 et le pick 24, il s'est retrouvé un peu juste. Vous voyez ce que je veux dire? Arrivé le 23, arrivé 22, Murray il est encore là. Tu te dis, bon, potentiellement, je sais pas si c'était lui la cible prioritaire en 24, mais de ce qui ressort des insiders là-bas, c'était le cas. Et tu te dis, bah, finalement, je vais peut-être le choper en 24. Tu vois Portland qui te le prend en 23, entre guillemets, et après, c'est très court entre deux... Vous voyez ce que je veux dire? Entre deux pics de monter un trade pour le 24. Simon, Titouan, on vous a pas encore entendu.
Non, j'essaie de me rappeler. C'est vrai qu'en live, il y a l'histoire du cousin, du frère Murray. Et en fait, tout va très vite parce que Portland le prend et en fait, c'est synchrone, quoi. T'en prends que les Kings. Je crois que dans l'ordre, d'abord, tu sais qu'en fait, ils vont trader le pick, mais on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Après, on apprend que c'est à Dallas. Après, tu apprends qu'il y a Holmes en contrepartie. Du coup, moi, j'ai un moment aussi comme Flo où j'ai un flottement où je me dis, mais en fait, c'est un move, ça. Enfin, c'est pas que peut-être il y a un truc qui va venir. Après, il y a un gars qui s'appelle quand même Olivier Maxence Prosper, donc qui a un nom incroyable, qui est quand même drafté officiellement par les Kings. Parce qu'on a quand même une. Par contre, on se trompe à la draft, mais on prend souvent le meilleur blast de toute la draft.
C'est vrai.
C'est pour ça que moi j'étais persuadé qu'une année on allait prendre Precious à Chua. Je me suis dit, en fait, on draft au nom, personne n'ose avouer, mais je pense que les mecs draftent au nom, osent pas le dire parce qu'ils se disent de toute façon on est des cons, on s'est pas drafté, donc on incroyable. Mais finalement, non, là ça, je me suis dit, tiens, en fait. Et il y a un petit moment de flottement où je vais vous dire même, je crois, parce que comme le live continue et tout, et c'est la fin du premier tour, on arrête. À un moment, je sais même pas ce que les Kings ont fait, et il y a eu trop de trades en même temps, et il y a eu des trucs, et je sais que j'ai un tout petit peu peur de me dire, putain, il y a une connerie qui arrive, ou il y a quelque chose, et c'est surtout très lié encore au fait que, moi j'ai l'impression aussi quand même, je sais pas, franchement je me demande si on n'est pas passé loin d'un plus gros move, ou qu'il y avait pas, j'ai l'impression que McNair était actif pendant un draft, voilà, pardon, j'avais perdu un peu le fil de ma pensée, mais c'était l'idée que McNair, j'ai l'impression, était très actif, à tenter des choses, parce qu'il réagit tout de suite. J'ai l'impression qu'effectivement, il voulait Murray et ça va hyper vite, quoi.
Il avait probablement deux plans, quoi. Il avait peut-être les deux trucs de près dans la manche. Il s'est dit, si Murray part, j'envoie le trade, quoi.
Si Murray part, j'ai ça. Et peut-être, du coup, si Murray part, j'ai un plan A, un plan B, un plan... Peut-être qu'il y avait d'autres choses, etc. C'était assez impressionnant à voir, quoi.
Est-ce que ça aurait pas été... Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas eu possibilité de faire un trade si, par exemple, il avait eu le temps, genre Murray trade en 15, tu vois ce que je veux dire? En termes de timing, ça prend largement plus le temps de monter un truc que 23-24. Tu vois ce que je veux dire?
Après, on fait des hypothèses. Qui nous a habitués, depuis qu'il est là, à faire un peu le contre-pied de tout ce que tout le monde pense. De se dire, bon, bah, là, il y avait un pic qu'on allait tous, on pensait tous, on avait un peu tous envie qu'il soit envoyé contre une star. Et bon, qui dégage du cap space, du coup on s'était dit, ouais, bah, comme tout le monde, moi je pensais qu'il allait avoir un move, qu'on allait récupérer quelque chose dans un trade à 3. Il y avait quelques rumeurs avec Dallas et Atlanta pour comment il s'appelle, le pivot d'Atlanta,
Collins ou non, Capella.
Ouais, Capella. Du coup je m'étais dit, sur une folie, il arrive à nous récupérer Capella et on a vraiment cet intérieur solide qui manque un peu, mais derrière Sabonis je le voyais pas passer en remplaçant. Et du coup, j'attendais pareil, en fait, j'attendais quelque chose et je me demandais à quel moment ça va être officiel et à quel moment finalement on va se rendre compte qu'il nous a sorti un tour de son chapeau.
Ben, en fait, il a laissé planer le suspense très longtemps parce que le trade a mis vraiment longtemps à être officiel. Hein. Si j'ai bonne mémoire, je crois que ça fait quasiment une semaine où t'as des tweets des Kings qui mettent Colbin Jones entre parenthèses, proposition de trade ou je sais pas quoi. C'était quand même assez drôle. Mais du coup, ouais, moi, j'avais vraiment... Pendant un moment, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc plus grand que ça. Et puis finalement, ça s'est avéré être peut-être probablement les difficultés administratives de conclusion d'un trade le soir de la draft. Il doit être un petit peu plus compliqué que ça. Mais voilà, finalement, ça reste pour passer au pic suivant, le pic 34, celui de Colby Jones, en provenance de Xavier. Ça reste un pic très McNair, comme on a pu tous le dire globalement sur Twitter, où tu as un rookie qui est plus âgé que tous les prospects choisis dans le top 10, top 15. Un gars qui est quand même assez polyvalent, qui peut arriver à jouer 2-3, qui a un bon QI basket, la tête bien sur les épaules, etc. Donc moi tout de suite le pic il m'a parlé quoi. Je suis allé voir des scouting reports sur lui et tout, et tout de suite je me suis dit c'est quand même je trouve ça que c'est un bon choix vraiment.
Ouais, et puis dans la com des Kings, la manière dont ils ont mis en avant ce pic qui est finalement un pic 34 hein, c'est ça,
34 ouais.
Ouais. J'ai l'impression que c'est un joueur qu'ils apprécient vraiment beaucoup et qu'ils étaient content d'arriver à choper en 34. Non, c'est, il y a beaucoup de mock draft où il était prévu en fin de premier tour.
Ouais.
Donc, moi, j'ai l'impression ouais, que c'est pas un choix par défaut juste pour balancer le contrat de Holmes. C'est qu'ils étaient aussi contents de réussir à le choper finalement au deuxième tour.
Je suis même pas sûr qu'on l'ait eu en workout, ce gars-là, parce qu'en fait, on a eu plein de workouts, et puis ces joueurs, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Colby Jones, il a sorti un peu de son chapeau, il était dans quasiment aucune rumeur autour des Kings, et puis voilà, il nous arrive ça.
Après, Davion Mitchell, il avait été drafté, il avait fait aucun workout avec les Kings. Hein,
c'est vrai, ouais.
Et il a été drafté avec le sourire en plus, si vous vous rappelez.
Je pense que c'est dans le fonctionnement du front office. Je pense qu'ils accordent beaucoup plus d'importance au scouting qu'ils ont fait pendant X saisons qu'à un workout ou une rencontre juste avant la draft.
Mais tu penses vraiment qu'ils ont été le scout, le Colby Jones, là, en sachant au deuxième tour? Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, tu vois.
Bah, c'est un deuxième tour, mais c'est un pic au deuxième tour. Donc, tu vois, moi, dans les mocks, il y a des fois, tu le voyais 24, 25, 26, il faisait partie de ces joueurs. T'as tout un range de joueurs entre qui sont fin de premier tour, début de second tour. Je pense quand même qu'ils essayent de les voir. C'est quand même des joueurs, je sais pas.
Surtout cette draft, elle était réputée pour être assez homogène en termes de talent. On savait en gros les premiers picks, mais après très vite, on va dire vers le milieu du premier tour et puis le début du deuxième, personne n'était capable de prédire parce qu'il y avait une espèce d'homogénéité du niveau et des pics potentiels, et je pense que dans ce cas-là, tu es un peu obligé de scouter un peu tout le monde, quoi.
Ouais, j'ai l'impression qu'entre le 20 et le 30 ou 35, il n'y avait pas vraiment d'écart de niveau incroyable, quoi. Parce qu'il y a des gars qui, dans des mocks, étaient effectivement, comme dit Simon, autour du range des 20-25, et puis finalement sont partis en 40-45. Je pense notamment au français Sidi Sissoko, c'est le premier exemple qui me vient. Où vraiment, des fois, tu le voyais milieu de premier tour dans le range 20, qui finalement est parti en 44 ou 45, je ne sais plus. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça qui c'était vraiment très difficile à prédire au-delà du top 10, qui était relativement prévisible, un peu comme tous les ans quand même.
Colby Jones, là, pour info, dans la draft de The Ringer, j'ai regardé ça là, il était projeté, enfin dans la mock draft, il était projeté 29 à Denver.
Ok, donc ouais, vraiment fin de premier tour, quoi.
Bah, ce qui est surprenant, c'est qu'on récupère un pick 34 qui, selon les dires des gens de Sacramento, aura quand même une place dans la rotation. On parle pas d'un pick 34 qui va aller squatter de la J-League. Donc c'est pour ça que je dis pas que ce choix est surprenant, mais comme vous dites, ça montre aussi que entre 20 et je sais pas, on va dire 40-45. Les joueurs peuvent se faire une petite place selon les franchises dans les effectifs, et on en reparlera après, mais ce qu'il a montré sur les deux matchs de Summer League, ça reste de la Summer League, voilà, c'est pas trop mal.
Ouais, de toute façon, McNair a jamais drafté des joueurs pour les développer, hein. Clairement, il cherche des mecs qui sont prêts à contribuer, enfin... Évidemment, après les pics de second tour, en général, tu les envoyais en G-League pour se développer. Mais là, vraiment, c'est un peu comme si c'était un pic de premier tour par défaut, quoi. C'est-à-dire, il a vraiment choisi comme s'il choisissait dans le premier tour, j'ai l'impression. Et puis voilà, et puis il va lui donner les responsabilités qui vont avec. Il va probablement avoir quelques minutes dans la rotation. Voilà, je pense pas qu'il va pas. Il va pas jouer du 15 minutes de suite, hein, mais je pense que voilà, il va pouvoir vraiment bien dépanner en troisième arrière, comme pouvait le faire Terrence Davis par moment. Voilà, je pense qu'il aura, qu'il sera dans ce rôle-là, parce qu'il est quand même relativement prêt.
En tout cas, c'est assez rigolo à voir. Je trouve qu'il y a vraiment un profil type hein, dans les picks de McNair. Donc là, c'est quoi, sa troisième draft, quatrième
Trois. Haliburton, Mitchell.
Mitchell, Keegan, et puis non, c'est sa quatrième. Ouais, quatrième, ouais. Et à chaque fois, c'est des joueurs, c'est pas forcément des jeunes joueurs à potentiel, quoi. C'est plutôt des joueurs qui ont déjà un peu d'expérience, qui sont assez complets, qui peuvent apporter tout de suite. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un profil McNair dans ces picks.
Ouais, et puis voilà, c'est ce qu'il veut. À chaque fois, ça a été les Kings, peut-être qu'ils devraient reconstruire et prendre un joueur à fort potentiel et tout. Et lui, il n'en a pas démordu, quoi. C'est non, je vais drafter un gars après, et puis on va l'enlever dans le grand bain. Et ça a marché avec. C'était le début du projet, mais voilà, ça a marché avec Haliburton, parce que de suite, il est arrivé, il a tout explosé. Ça marche avec Keegan, parce qu'il vraiment, il a progressé de malade tout au long de la saison. Et là, ce qu'il nous a montré en Summer League, ça nous laisse à penser qu'il va faire un grand saut avant la saison 2. Mais voilà, il sait ce qu'il veut. Et à chaque draft, il arrive, il prend son truc et il n'en a rien à foutre des avis extérieurs. C'est moi, voilà, mon équipe, elle doit gagner de suite. Je prends des mecs qui sont prêts, des mecs qui ont bien la tête sur les épaules, avec un bon QI basket, polyvalent, et puis en avant, quoi.
C'est assez rassurant parce que ça montre quand même qu'il a... Enfin, lui et son staff, ils ont quand même un projet en tête. Quoi. Parce que, s'ils prennent des profils particuliers, c'est qu'ils ont quand même une idée globale du style de jeu qu'ils veulent mettre en place, de la complémentarité des joueurs, etc. Donc, après, on peut être d'accord pas d'accord avec le projet, mais en tout cas, je pense qu'il y a un projet.
Non, il y a une cohérence, en tout cas.
Ceci étant dit, on n'a rien à foutre des postes 3 encore. Là-dessus, le poste 3, je ne sais pas après... J'ai pas regardé, Simon, toi t'étais en live avec la famille du Trash Talk. Je sais pas ce qu'il y avait au poste 3 à ce niveau-là, mais on est toujours, enfin voilà, les postes 3, je crois qu'ils ferment les yeux sur les scouts, sur les joueurs potentiellement qu'on peut drafter sur ce poste-là. Ouais, parce que Colby Jones, c'est quoi? C'est un 2?
C'est un 2
qui peut jouer 3, quoi.
Mais c'est pas son poste de prédilection, quoi.
Non, c'est un petit, voilà, c'est comme un Kevin Werther, quoi, tu vois, un peu plus petit, je pense, ou un Bogdanovic, voilà, tu vois, c'est ce genre de joueur qui joue surtout du poste 2, mais qui va pouvoir jouer du poste 3 si tu veux faire un jeu tout pour l'attaque, quoi.
Mais pour prolonger, c'est marrant cette idée de joueur prêt à l'emploi. En plus, il a récupéré Duarte d'Indiana, qui était déjà à l'époque où il est drafté le rookie, alors je sais pas si c'était le plus vieux de sa QV, mais dans les plus vieux, et qui avait fait ce premier et deuxième mois où on avait cru que c'était un candidat rookie de l'année, parce qu'en fait lui ça lui faisait moins peur que les autres, il comprenait les concepts d'équipe plus rapidement et tout, et ça répond à d'amener Duarte maintenant, ça répond à deux trucs en même temps. Moi j'ai l'impression aussi qu'on va décaler, on en parlera peut-être plus tard, mais dans la rotation je me demande si on va pas décaler d'un cran Werther et Duarte, du coup, il est considéré de plus en plus comme des postes 3 avec Barnes, parce qu'on a beaucoup d'arrière, alors j'ai l'impression, enfin on va voir, mais si le rookie rentre dans la rotation en plus et tout, et qu'on va vraiment adopter ce style de, en fait, Sabonis est pivot, et il n'y a plus de, comment dire, il y a un seul ailier fort considéré à côté, puis le reste, en fait, c'est des shooters, des ailiers, des arrières, etc. Mais tu vois, moins une logique de deux ailiers, deux arrières, un vrai intérieur, je pense sur un Sabonis, un mec quand même un minimum costaud à côté pour pas qu'on se fasse totalement marcher dessus. Et après, le reste, quoi. J'ai l'impression
ça revient à dire ce que disait, je crois que c'était Brad Stevens, qui disait qu'aujourd'hui, t'as plus que trois postes en NBA, en fait. T'as le meneur, la raquette et les autres. Donc ouais, je pense que... Après, Werther en défense, poste 3, je suis paniqué. Hein. Mais ouais, à voir. Moi, même si je pense que... Après, il y a Mitchell, mais Monk sera un peu à la main, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut voir. Après, faut pas oublier Vezenkov.
Et il y a Vezenkov qui arrive. Vezenkov, pour la peine, c'est un ailier. Là, pour la peine, c'est un poste 3, voire 4, je pense. Mais Werther, quand on verra Werther, je pense qu'il y aura plus souvent deux petits à côté de lui qu'un seul meneur, tu vois ce que je veux dire. Que ce sera souvent, quoi. Ou en tout cas, moitié-moitié. Il y aura des moments Werther vraiment deux à côté d'un meneur. Je pense qu'on va décaler un tout petit peu. Et Duarte, pour la peine, même s'il est petit et tout, il est physique, je pense, poste 3. De toute façon, il faut s'y faire. Dans la NBA, chaque année, tu te rends compte que poste 3, Bud Hield joue poste 3 la moitié de ses matchs titulaires. Maintenant, ça pose aucun problème, quoi.
Ouais, et puis quand même, mon heurteur, quoi, il fait plus, quand même plus de 2 mètres, il fait un bon, ouais. Un bon 2-0-1, quoi, dans la mesure où si jamais un jour il se sort un peu les doigts et qu'il se muscle un peu et qu'il a le profil d'un poste 3, quoi, vraiment. En fait,
un poste ouais, 3 qui va rester dans le corner, quoi, tu
sais ce que je veux dire. Il est pas assez costaud aujourd'hui, mais il a le profil.
De toute façon, poste 3, si tout va bien, on a le futur Kawhi Leonard, donc... parce qu'on...
Et puis on a eu ensuite au pic 54 ce fameux Jalen Slauson dont j'avais absolument pas entendu parler, enfin, comme beaucoup de rookies d'ailleurs en second tour, mais qui lui pour le coup est un espèce d'intérieur undersize qui a l'air de jouer 4 voire 5, qui fait 2m01 je crois, assez costaud, plutôt bon défenseur, qui peut un peu tirer à 3 points, qui faisait un peu tout j'ai l'impression à sa fac. Et lui pour l'instant j'ai pas trop réussi à cerner ce qu'il faisait, notamment sur les premiers matchs de Summer League. J'ai vu qu'il posait de bons écrans, qu'il faisait des efforts en défense, mais là pour le coup, je capte pas encore le profil. Quoi.
Mais le délire de il pose des bons écrans, ça me fait délirer. Ouais, il pose des bons écrans, il fait bien ses lacets. quand tu sais pas quoi dire sur un joueur que tu l'as jamais vu de ta vie, tu sors des trucs comme ça. Ouais, il a une belle foulée. Ouais, ça va dégager Angelique, remplacer Keta, et puis pour ma part.
Ah non, mais de toute façon, il a signé un two-way, donc. Mais voilà,
c'est ouais, mais on le verra quasiment pas.
Non, puis t'es dur, Laurent, il y a vrai joueur. Moi, j'ai vu, il fait vachement bien les remises en jeu. C'est vraiment un truc dans son jeu qui est frappant, quoi.
C'est que t'es marqué tout en haut du scouting report, là, vraiment.
Deuxième ligne.
Ouais, vrai, ça, sens, ouais. Vrai sens de la passe.
On va demander, Tito, tu connais ce joueur ou pas du tout?
Pas du tout. Encore d'habitude, les années précédentes, je regarde un peu les trucs un peu envergure, parce que bon, la draft, c'est un peu notre moment. Mais alors, Jalen Slauson, j'ai vu pivot 2m1, je me suis dit déjà, qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'envergure, ils ont un truc, genre perte de balles stupide ou quoi, donc même pour les remises en jeu, je pense que...
Ça, c'est même compliqué. Pas, tu vois.
Il a un gen à 60 comme dans NBA 2K, tu sais, quand tu démarres ta carrière. Tu sais pas faire de remise en jeu, tu sais rien faire.
T'as l'impression de conduire un tracteur.
Ouais, c'est ça. Bon. En même temps, les picks 54, tu t'attends à rien.
Oh, t'as pas trop d'attente.
Quelle année on avait eu un 50, je crois, c'est pas l'année de Calgary ou cette année-là, là, où on avait vraiment du fond de tiroir.
Et oh, les Kyle Guy, les Justin James et tout, là, c'est du
fond. Ouais, c'est ça, Woodard, c'était Woodard et je sais plus qui, voilà,
Woodard, à mon avis, s'était trompé de sport, hein. Il aurait dû plutôt faire du football américain. Il avait le physique et juste ça, quoi. Donc, vraiment, ouais, ce joueur-là, on verra. Après, voilà, comme Keon Ellis, Jalen Slauson, il a pris un des 3 two-way contracts qu'on peut donner depuis cette saison. Avant, c'était 2, maintenant, c'est 3. On verra si Keta ou quelqu'un d'autre récupère le 3e. En attendant, voilà, qui a quand même l'impression de miser sur le joueur un minimum pour voilà, l'envoyer en G-League et pourquoi pas l'appeler en renfort un soir où
ça va. Bah, quand tu vois les deux premiers matchs de Keta, là, c'est ciao et bonne route. Pour ma part. Sur ces deux premiers matchs, c'est catastrophique.
Du coup, je comprends pas le projet de lui avoir donné une qualifying offer dans la mesure où, en fait, voilà, tu le protèges. Donc personne d'autre peut le signer et du coup c'est je sais pas, je pense qu'ils vont sûrement lui filer un two way pour la forme, mais franchement ce joueur, j'étais quand même assez hypé par lui au début, je me suis dit quand même il est assez brut de décoffrage, il y a quand même un vrai potentiel et tout de rim protector, un profil qui sera vachement intéressant à côté de Sabonis. Et puis comme j'ai pu en discuter avec Flo sur Twitter, on a l'impression que il a absolument pas évolué depuis sa draft. Quand on voit le même gars avec qui fait les mêmes erreurs, qui fait toujours beaucoup trop de fautes. Enfin voilà, je suis un peu embêté par rapport à Keta, mais parce que j'aimais bien le joueur à la base, quoi.
Après, il faut les Kings, il leur reste à peu près 5 millions là de cap space, donc peut-être que aussi il est gardé. En attendant de voir s'il trouve mieux comme troisième pivot.
Ouais, c'est possible aussi. Ouais.
Peut-être qu'il cherche un peu encore au niveau de la free agency un troisième pivot et puis qu'il garde pour le moment Keta en sécurité. Mais ouais, très clairement, c'est sa troisième saison. peut pas dire qu'il ait cassé la baraque sur les deux premiers matchs de Summer League. Hein.
Ouais, non, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, du coup. Ouais. Parce que, ouais, justement, on va en venir avec la free agency juste derrière, mais le poste de pivot, là, derrière Sabonis, si c'est Keta ton troisième pivot, avec Alex Len, qui en plus un. Alex Len, je l'aime beaucoup, hein. il a fait des trucs sympas sur la fin de saison et sur les playoffs. C'est un joueur de devoir, voilà, ce qu'on dit sur des joueurs quand on ne peut pas dire grand-chose.
On dirait les milieux récupérateurs en Ligue 2, tu vois. Joueur de devoir.
Très bons écrans.
Très bons écrans. Et ouais, et du coup, là, il est sur un deal minimum vétéran non garanti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un monde dans lequel on ne compte pas sur lui la saison prochaine. Donc, je ne sais pas quel est le plan aujourd'hui.
Je pense qu'il est là parce que dans certains mismatchs très particuliers, il peut servir. Tu vois. Il a de la taille, il défend, il prend des rebonds. Quant à certains pivots en face, ça peut être utile. Mais moi, j'ai l'impression que pour le moment, le plan, c'est d'utiliser beaucoup Lyles en tout petit 5. Hein.
Ouais. Ouais. C'est ce qui a le mieux marché en fait. Mm.
Il avait fait un bon passage contre les Lakers, je crois. Keta, là, il avait mis 10 points.
C'est le seul match de la saison où il a joué, hein, je crois.
Ouais, c'est un peu ça.
Il a fait un bon match, mais.
Bah, c'est dans le même match où Holmes il en met 20 aussi, donc bon, ça te dit. ça te dit la qualité du match aussi.
Ça te dit la qualité aussi des Lakers. Ouais, on l'a tapé avec ce secteur extérieur, quoi. C'était quand même exceptionnel. Du coup, on va se faire un petit point sur la free agency. Il y a eu quand même, mine de rien, pas mal de mouvements. Les Kings ont essentiellement misé sur, le maître mot, ça a été vraiment la continuité. On a vu le front office a vu le groupe qui marchait bien, qui a bien marché cette année. Et puis voilà, il s'est essentiellement attelé à ramener les joueurs principaux. J'ai pas dans l'ordre chronologique, mais ça commence avec prolonger Sabonis, lui donner un peu plus d'oseille sur l'année prochaine, prolonger Harrison Barnes, prolonger Trey Lyles, ramener à qui on a ramené d'autres, Kessler Edwards qui a montré de bons trucs, ouais. sur des contrats qui sont quand même relativement intéressants. Je laisserai Flo sur l'aspect financier, puisque c'est devenu notre Bobby Marx dans la Comic Kings France, sur l'aspect cap, etc. Mais voilà, moi je trouve quand même que, vu les patates qui ont été distribuées au long de la free agency, dire que Barnes s'est surpayé avec 54 millions sur 3 ans, je trouvais ça un peu abusé. Je trouve que c'est quand même, ça reste un très bon contrat. Lyles, pareil, 8 millions, franchement, 8 millions la saison, ça reste très honnête. Moi, je trouve que franchement, il n'y a pas eu de folie. Je pense que les joueurs ont eu aussi à cœur de revenir peut-être avec des deals team-friendly, on va dire, où ils cherchaient un peu à ranger l'équipe financièrement. Et voilà. Donc, il y a eu une bonne intersaison. C'est pas le truc qui va faire le plus de vagues. C'est pas ce qui va faire le plus parler. Mais voilà, il y a quand même une continuité qui a été cherchée tout en ramenant un peu plus de profondeur de banc. Quoi.
Alors, c'est vrai que au départ, ça peut être vécu un peu comme une déception parce que suite au trade de Holmes, là, les Kings, ils ont à ce moment-là, je ne sais plus, 34 ou 36 millions de cap space. Et en tant que fan, tout de suite, on s'est excité. On s'est dit, ça y est, ils vont nous ramener un pur joueur et tout. Et puis, finalement, McNair, il a joué la carte de la continuité, alors soit par choix, soit par défaut, parce qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait, on ne sait pas. Et du coup, ça peut être vécu comme une déception, mais la déception, elle est liée aux attentes qu'on a, qui sont peut-être probablement démesurées. Faut pas sous-estimer la qualité de l'effectif qu'on avait l'année dernière, la purée de saison qu'on a eue l'année dernière, qui était super fun. Donc, on peut pas dire que ce soit une erreur de repartir avec le même groupe. Et puis, comme tu le dis, ça a des tarifs intéressants. Alors, c'est sûr que quand on dit Barnes 18 millions, ça peut sembler énorme parce qu'on a encore en tête les anciennes valeurs du salary cap. Mais en fait, 18 millions maintenant, aujourd'hui, c'est plus tant que ça. Donc non, on a eu, McNair a joué la carte de la continuité. Moi, je suis content de repartir avec ce même groupe qui a été tellement, tellement fun la saison passée.
Ouais, l'ordre est important, je pense. En premier, on apprend Barnes, ça je me rappelle vraiment. Parce que justement, tu as le montant. Et c'est aussi pour ça que sur le moment, il est dur à analyser. Parce que tu n'as pas encore les signatures des autres Zoulous. Kuzma et compagnie. Comment il s'appelle déjà à Portland parce que je dis toujours
Jérémy Grant.
Jérémy Grant
et pas Jarian. Etc. Et, tout. Et donc sur le moment, le deal. En fait, tu n'es pas trop sur la main. Tu es là, genre, bon, ok, on garde Barnes. Et c'est pas cher, mais c'est déjà trop d'argent. En fait, tu comprends. Parce que même si c'est pas cher, bah c'est quand même 18 millions. Et tu te dis, bon, bah ok, bah Kuzma, tout ça et tout, ça, c'est pas possible. On fera pas les deux. Ça paraît logique.
Ouais.
Et donc, très vite, tu te dis, on se dit qu'on va sans doute vers un statu quo. Et je crois que coup sur coup, il y a Lides, trade pour Duarte, Kessler Edwards. Et après, il y a une petite pause. Et après, il y a l'histoire de. Qu'en gros, Vezenkov est confirmé. Parce que c'était dans les bruits, mais c'était pas officiel. Je crois que ça vient après l'officialisation. Ouais. Avec le montant, là, les. Et 20 millions, 3 ans, je sais plus.
C'est ça.
Alors pour la peine, ça c'est peut-être vraiment pas cher. On va voir son temps de jeu, on va voir comment il s'adapte et tout, mais. Enfin, on en parlera sans doute un peu plus tard de lui, mais je vois. Y a un plancher qui me paraît quand même costaud, même pour l'NBA, quoi. Mm. Avec ses qualités de shoot et tout, je vois pas comment dans l'NBA actuelle il est pas au minimum utile. Souvent, et qui plus est en saison régulière quand ça défend pas, quoi. Et le dernier truc, c'est que Terence Davis n'est pas conservé. Je crois que ça, c'est aujourd'hui.
Ouais, ça, c'est tombe de cette date d'aujourd'hui, ça, il y a quelques heures. Ouais.
Et attends, dans l'ordre. Ah oui, non, et avant, il y a Len.
Sabonis et Len, je crois, dans la même nuit.
Comme Holmes est parti, il y a l'espèce d'histoire. Bon, bah, peut-être que les sous, peut-être que le dernier gros move, ça concernera l'intérieur. Parce qu'à un moment, on n'a vraiment plus de pivot remplaçant. Parce qu'en plus, Metu est parti à Phoenix. Le soir de la draft. Quand il signe plein de gens, là, Phoenix, en deux secondes. Le premier soir de la free agency. Et donc, l'ordre, c'est Len est confirmé derrière Lyles. Et donc là, on se dit, OK, c'est vraiment le même groupe avec, en gros, Duarte pour Terence Davis et la plus-value Vezenkov.
Ouais, parce qu'en gros, c'est ça. Hein, on repart avec le même groupe, juste avec Vezenkov et Duarte qui remplace Terence Davis et Metu.
Metu, on va dire, ouais. Ouais. Je me demande si c'est par garantie, mais je sais même pas à combien de joueurs on est dans le roster là.
On est à, je crois, j'ai fait le compte 13. Tout à l'heure, je crois qu'on est à 12. On est à 12 et 13 si tu comptes si tu comptes Alex Len qui est pas garanti.
Parce qu'il y a quand même encore 2-3 petits trucs. Vous voyez, il y a par exemple les Sixers là, ils viennent de confirmer Montrezl Harrell. Moi, Paul Reed, de ce que j'ai vu par exemple, j'aime bien. Il y a 2-3 mecs qui traînent encore qui peuvent jouer intérieur en NBA, intérieur pivot. Je me demande quand même si on va pas essayer d'en signer un, hein, parce que on est. Notamment Sabonis, l'an dernier, joue quand même avec un pouce blessé, des choses comme ça et tout. Moi, j'aimerais bien, même s'il ne se blesse pas, hein, mais j'aimerais bien que Sabonis ne rejoue pas 82 matchs pour l'avoir vraiment en forme en play-off. Et donc, j'aimerais bien un peu plus que Lyles et Keta, quoi, à l'intérieur, et Len. J'aimerais bien un mec en plus, quand même. Confirmé NBA, on va dire.
Ouais, un troisième pivot et ou un troisième meneur aussi, éventuellement.
Ben, écoute, le troisième meneur, je me demande s'ils ne vont pas tester le rookie. Qui est vu comme assez bon manieur de ballon, arrière intelligent et tout. Je sais pas, enfin meneur. En tout cas, je me demande s'ils vont pas se demander un peu ce qu'il vaut, quoi. J'ai l'impression aussi qu'il compte sur lui, le rookie, mais on verra.
Après, il faudra voir la rotation, parce qu'on sait que les rotations NBA, c'est 9-10 joueurs maximum, hein, en joueurs principaux, ouais. On va dire. Et là, bah, on a déjà le 5 majeur plus Monk, Mitchell, Lyles. Je pense que ça va repartir.
Ouais.
Tu rajoutes Vezenkov, bah là on est déjà à 9. Hein, donc,
Duarte.
Après, ouais, Duarte ouais. Ou Jones, mais bon, on est déjà au dixième joueur. Quoi, tu vois, ça va pas être des gros temps de jeu. Quoi.
Non, c'est pour ça que ça pourrait avoir un effectif complet, mais effectivement, on parle pas du tout de mecs qui vont aspirer à une place de titulaire, par exemple, dans l'année, te bousculer ta hiérarchie et râler. Mais franchement, un mec qui a déjà joué une ou deux quelques saisons NBA, quelques minutes, qui à l'intérieur ferait pas de mal, je trouve, moi quand même, notamment en cas de blessure, parce que là, on verra, mais on est. Moi, j'aime beaucoup Trey Lyles et je suis content qu'il joue plus, enfin qu'il est vraiment installé, qu'il ait trouvé sa place en NBA. Par contre, je suis pas si sûr que j'ai envie qu'on revive la même saison si Trey Lyles est titulaire 40 matchs.
Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment avoir une solution de secours au cas où, quoi. Comme de la même façon qu'on a eu Della Vedova qui a fait ce qu'il pouvait, mais voilà, il était là. Les matchs où il n'y avait pas Fox, voilà, s'il y a un soir, tu te retrouves sans Sabonis et que tu dois jouer 40 minutes, 30 minutes avec Alex Len et je ne sais pas qui derrière Alex Len, ça va être vraiment compliqué quand même. Donc, ouais, comme toi, Simon, je pense que là, vraiment, il y a besoin quand même d'un pivot qui sait faire quelque chose de ses 10 doigts, là, vraiment, qui est capable de jouer 30 minutes, si on lui demande de jouer 30 minutes. je pense que c'est vraiment indispensable pour terminer la free agency.
Il y a Bol Bol qui est dispo, je crois.
Ouais, c'est ça. Ça peut... ouais,
je lance un nom comme ça en l'air, débrouillez-moi avec ça. C'est parce que là, ça me parle, je ne sais pas ce qui reste en pivot. Bon, Bamba, je pense que ça aurait été pas mal. Hein.
Ouais.
C'est pas dingue, hein, parce que bon, quand tu déclines Sabonis, Len, Bamba, bon, ça fait pas rêver. Mais voilà.
C'est ça, c'est le genre de profil, c'est un mec qui connaît l'NBA, qui a déjà...
Ouais, voilà, c'est ça.
Même un Kaminsky, tu vois, mais c'est histoire d'avoir un mec qui peut... Kaminsky, je crois, une année au Suns, il dépanne... Non, mais il est pas bon. Mais je crois qu'il y en a au Suns, il les dépanne 10-20 matchs et ça va. C'est juste pour pas sombrer au cas où, en cas de blessure et tout. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce que l'année dernière, on est bien tranquille au niveau des blessures. Ouais. Donc si ça repart comme... si on a le même groupe, mais que cette année, je sais pas, il y a Fox qui prend 20 ou 25 matchs, ça peut vite...
Ah non,
la galère, je pense.
Combien de matchs il a pas joué, Fox, l'année dernière?
5-6, j'irais.
Ah, j'aurais pensé plus, tu vois.
Ouais, je sais pas, c'est difficile parce qu'il a. Je pense qu'il a rarement raté plus de 2-3 matchs d'affilée.
La saison passée, là, tu veux dire?
Ouais, cette saison.
Oui, là, sur 2022.
Il a raté 9 matchs.
Ouais, parce que ce qui est drôle, c'est que quand on voit que Fox n'est pas là, Mitchell, c'est pas le même joueur. Donc, je dis pas que Mitchell, il a le niveau de Fox, c'est pas du tout ce que je dis. Mais, quand il est titulaire, quand Fox n'est pas là, il prend plus de responsabilités, il est bien meilleur. Là, notre problème, ça va être, comme vous dites, les pivots et le poste 3. Juste pour revenir sur la free agency, moi, je pensais que Lyles aurait été en sign and trade. Voilà, dans ma tête, je me suis dit ça, on va le signer, on va le dégager pour prendre un autre joueur. Bon, je sais que Flo, t'as rêvé d'Oji Anunoby. Mais là, vu ce que demande Masai, il veut Fox, Sabonis, le Golden One, le Bib, il veut tout récupérer. Donc, faut peut-être pas déconner. Mais j'ai cru lire là ces derniers jours que Siakam pouvait être dispo. Est-ce qu'on aurait ce qu'il faut pour le récupérer? Je pense pas.
Je pense pas.
Le problème, c'est que les Raptors, ils veulent dégraisser, enfin, ils veulent tout chambouler, mais ils veulent à côté de ça des trucs incroyables. Donc, voilà, je pense pas. Repartir avec le même groupe, moi, ça me dérange pas. C'était cool la saison dernière, on a bien kiffé. Cependant, t'es obligé de constater que les équipes autour de nous se sont renforcées quand même bien fort. Hein.
Ça, j'avoue ça m'a fait un peu transpirer quand même au fur et à mesure des jours de la free agency de voir qu'il y a quand même du monde qui arrive à l'ouest là, que beaucoup
d'équipes qui ont Pacifique, ils arrivent. Et là, on parle même de James Harden potentiellement aux Clippers, à voir ce que ça peut donner. Voilà. Mais voilà, on repart sur le même groupe, on a cet aspect continuité, on est content, on a kiffé notre saison dernière. Mais pas sûr qu'on fasse la même saison et qu'on gagne autant de matchs quand tu vois ce qui se passe à côté. Je dis pas, peut-être qu'on fera la même saison et on sera tous contents. Malheureusement, tu vois que la conférence, elle se resserre encore un peu. Je dis pas que je suis pessimiste, hein, on en reparlera quand on fera la preview en septembre. Mais si on arrive à avoir une troisième place encore là, je sais pas ce que je fais, une dinguerie, mais je me lance pas là tout de suite au mois de juillet à faire des paris dingues. Mais voilà, je me dis que ça va être très compliqué parce que vouloir miser sur la continuité, c'est très bien, et McNair a raison, mais quand tu regardes ce qui se passe ailleurs, les Lakers, ils font une FA qui est bien.
Hein. Ouais. Les Suns aussi, avec très peu, ils ont récupéré.
Bon, les Suns, ils ont fait, ils ont tout mis sur leurs 5 majeurs. Après, on voit ce qui se passe. Donc, voilà, je suis content, mais j'ai cette petite part de moi qui me dit ça va quand même être très chaud dans cette foutue division, quoi.
Ouais, et puis là où je te rejoins, Laurent, c'est aussi, il faudra bien considérer le fait que cette année, les Kings, ce ne sera pas une surprise. Parce que la saison passée, personne ne les attendait à ce niveau-là. Et même pendant toute la saison, et nous les premiers, on se disait, bon, à quel moment ça va se casser la gueule? Même à la fin de saison, les équipes, elles faisaient des calculs pour arriver sixième, parce qu'on se dit, bon, allez, on va choper les Kings, parce qu'ils ils sont inexpérimentés en play-off. Donc, il y a eu pendant toute la saison une espèce de truc, ouais, bon, ils font une bonne saison, mais, tu vois. Et par contre, la saison prochaine, je pense que ce ne sera plus le cas. La saison prochaine, ils seront vraiment attendus. Et donc, je pense effectivement, ça va être dur de faire, enfin, quasi impossible de refinir troisième de la conférence. pour contrebalancer ça, je dirais qu'il ne faut pas non plus trop sous-estimer la valeur de la continuité. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, c'était la saison 1 de Mike Brown, vraiment du duo Fox-Sabonis. C'était vraiment la première saison de ce groupe. Collectivement, ils peuvent encore beaucoup progresser. Et c'est toujours plus simple de progresser quand tu repars avec le même cœur, quoi. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais bon, en tout cas...
Il y a pas mal d'équipes, comme vous avez cité les Lakers, qui ont fait des grosses free agencies, qui ont signé des noms qui sont assez ronflants et tout, des gros free agents, machin, mais tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment une cohésion dans ce genre d'équipe? Est-ce que ça va fonctionner? Là, les Lakers, sur la fin de saison, ils ont eu de la chance, parce que tous les ajouts qu'ils ont faits, ça a marché de suite, ça a pris, ça leur a permis d'aller en play-off. Mais c'est pas parce que tu attrapes les meilleurs free agents du marché que, paf, en claquant des doigts, tu vas avoir un super groupe qui va repartir et tout. Comme dit Flo, vraiment, la continuité et la patience, c'est les trucs les plus importants, finalement, en NBA. On l'a vu cette année avec le titre de Denver. Qui c'est qui aurait dit qu'il y a 4 ans ou 5 ans que Denver serait champion NBA? Bah, finalement, en fait, ils ont plus ou moins le même corps avec Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., etc., depuis quelques années. Et ils ont bâti là-dessus, ils ont gardé les mêmes joueurs année après année, en faisant voilà, des petits ajustements de banc, en allant chercher des vétérans, des mecs comme ça. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, ils ont progressé, play-off, deuxième tour, finale de conf, finale NBA, et titre, quoi. Donc je suis quand même, comme tu as dit, on en reparlera, mais moi je suis quand même reste assez confiant. J'aime bien la free agency qu'on a fait, même si naturellement on est un peu déçu quand on n'a pas un nouveau joueur, on est là, on aime bien les petites surprises et tout. Je pense que c'est humain d'être naturellement un peu déçu de voir que tu repars avec la même chose parce qu'on aime bien la nouveauté. Mais franchement,
des nouveaux maillots, c'est déjà ça.
C'est vrai, ouais, on relance un petit peu l'identité aussi, c'est sympa, c'est vraiment sympa comme truc.
Et le fait de jouer la carte continuité, pour moi, ça veut dire aussi quelque chose, parce que avec le cap space, les espérances qu'on avait, on s'était dit, s'il y a un gros coup à jouer, ça va être le poste d'ailier. Tu vois, Barnes, il est en fin de contrat, tu peux le remplacer, tu peux remplacer une pièce majeure dans le 5. Bon, finalement, il joue la carte de la continuité. Pour moi, ça veut dire une chose importante, c'est que McNair, il compte sur Keegan Murray pour être l'ailier du futur tant attendu.
Ouais, j'ai l'impression qu'on fait la même erreur que pas mal de médias. On oublie, je pense, Vezenkov, en fait, qui a été vu comme une... Ouais. Eux devaient le savoir sans doute avant nous, au moment de négocier avec Barnes, de choisir de ne pas aller faire une offre folle à Kuzma, etc. Que Vezenkov allait sans doute donner son accord là, qu'il avait fini, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire en Euroleague. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus tard, j'aimerais bien vos avis et tout, mais Vezenkov, je pense quand même que c'est un mec qui peut... Je sais pas. Je me demande même si à un moment, on va pas se demander assez vite, genre, mais il faudrait pas le mettre dans le 5 dès le début.
À la place de Barnes, éventuellement. Ouais,
ou lui donner du temps de jeu, ou réfléchir à des formules où tu vois, où tu auras des espèces de deuxième 5 où en fait, il y a lui, Lyles et par exemple Harrison Barnes qui vient aider. Donc, tu as un front court un peu interchangeable en 4-5, là, mais où en fait, ça marche super bien contre plein d'équipes, etc. Et rien à voir là avec Vezenkov, mais pour revenir et boucler un peu sur la saison dernière et là ce qu'on a fait cet été, juste la saison dernière, on est troisième, mais en vrai, on gagne que, entre guillemets, 48 matchs. Et pour un troisième, c'est pas un total de ouf. Et on est à 4 victoires de plus que nos bourreaux des Warriors, qui eux finissent 6, et même qu'à 5 de plus que les Lakers, etc. Donc en fait, à vraiment, l'année dernière, moi je me rappelle ça, on est très longtemps, on se dit, ok, on va y aller, mais on sait peut-être que 3 semaines avant la fin, etc., qu'on va éviter le pénis et tout. Et il y a ce long moment de flottement où à l'Ouest, alors il se trouve qu'on gagne bien nos matchs et les matchs qu'il faut et qu'on reste longtemps en troisième. Je crois à un moment on repasse quatrième, je crois. Peu de temps.
Plus, ouais. Je te confirme, Simon, qu'avec le King Strip qu'on préparait, on ne savait pas à quoi s'attendre. on l'a bien senti, cette incertitude-là.
Clairement, on est tout le temps en troisième. Je crois qu'il y a juste un moment de mémoire. Il me semble que les Suns nous repassent devant, mais genre un soir, une nuit, et après on déroule. Mais par exemple, en vrai, on est un peu un sixième parce qu'on a perdu au premier tour. Tu vois, les Warriors auraient pu être troisième, nous six, on fait un match en sept et tout. On est dans ces eaux-là. Donc moi, ce que j'espère l'été prochain, c'est de vivre une saison similaire sur une chose, c'est de par contre être dans le top 6 ou en tout cas dans les équipes qui normalement iront en play-off directement ou en cas de vraiment grosse saison avec blessure, iront en play-in parce que finalement, c'est à ça que ça sert. On l'a vu avec les Lakers l'an dernier et tout, ça t'amortit quand même une saison qui est mal embarquée ou qui est gâchée par les blessures. Mais en gros, qu'on est vraiment définitivement une équipe, ce qu'on appelle une équipe play-off, quoi, tout simplement. et que l'année dernière n'était pas n'est pas un truc comment on appelle ça, un coup d'épée dans l'eau ou genre d'expression
un feu de paille,
un feu de paille, un pétard mouillé, une baudruche qui fait pshhh, voilà tout ça, mais qu'on confirme. Moi j'aimerais bien un cycle de 2-3 ans vraiment où on aille en playoff d'affilée et d'avoir des bonnes habitudes, de voir que c'est pas que des beaux discours, de voir, parce que l'an dernier il y a, alors faut le dire aussi, la continuité, mais l'an dernier il y a aussi un côté tout beau tout nouveau. Tout tourne, et ça, on se l'est commenté, nous, toute l'année. Franchement, l'année dernière, on a aussi beaucoup de chance, j'ai l'impression. À un moment, avec la blessure de Sabonis et tout, ça tourne dans l'autre sens. Il peut jouer quand même, ça passe. Il y a pas mal de pièces. Enfin, comment dire, la pièce tombe souvent du bon côté. Et ce que j'attends de voir aussi l'année prochaine, c'est quand elle va tomber, parce que c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et c'est la vie encore plus en sport. Elle va tomber du mauvais côté 2 ou 3 fois l'an prochain, sans doute. Et c'est ça que j'attends de voir. C'est comment l'équipe va réagir quand, en fait... Monk, il est peut-être tout gentil, c'est peut-être le meilleur copain de Fox, mais à un moment, il va dire, moi, j'aimerais bien jouer plus. Je sais pas, par exemple, tu vois. Juste comme ça, mais parce que, bon, bah, ça fait plus d'un an qu'il est là, tout ça et tout, c'est bon, il est intégré, il est machin. Ou effectivement, Vezenkov, à un moment, ça va poser problème parce que c'est le meilleur ailier. Ou Murray a vraiment pris le pouvoir, et faudrait, voilà, ou les blessures, évidemment. Je reviens là-dessus, mais parce que l'an dernier, on est particulièrement épargné, surtout quand on regarde mon concurrent par les blessures.
Ouais.
Et ou les Insta Live, on est épargné par ça aussi.
Mais non, mais c'est clair que franchement, la saison passée, on n'était pas loin de la perfection. On pouvait pas à tout plan. Et je suis d'accord avec toi, Simon. Faut pas considérer que tout ça c'est acquis. Dans le sport et dans le sport de haut niveau, ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Donc effectivement, à voir comment ils vont réagir.
Pour un peu faire la suite du podcast, parce que du coup, on s'est un peu déjà embarqué sur la preview de la saison prochaine, mais c'est pas grave, c'est très bien, et on refera un épisode spécial dessus. Juste, si vous avez plus de réactions à propos de la Free Agency, on peut parler vite fait de la Summer League, où on a vu quand même 2 matchs de la Summer League de California Classic, qui après s'être égaré à San Francisco, est enfin revenu à Sacramento. Où du coup, on a eu droit qu'à 2 matchs. Chaque équipe a joué que 2 matchs. Les Kings ont engrangé 2 victoires qui continuent leur tradition où ils sont trop forts en Summer League. Avec un Keegan Murray qui a complètement survolé les débats et qui a été absolument monstrueux sur les 2 matchs. J'ai vraiment envie d'avoir vos réactions en live parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur Twitter. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé de ces premiers matchs. Toute proportion gardée, évidemment, parce que ça reste de la Summer League.
On va laisser commencer. Titouan, peut-être. Titouan, n'hésite pas à t'imposer. Prends la parole.
Les anciens, ils parlent beaucoup.
Ouais, c'est ça. C'est un peu les conversations de PMU.
J'écoute la science. Mais ouais, moi, j'ai vu... Enfin, Keegan, c'était n'importe quoi. J'avais un peu l'impression que c'était le grand frère qui vient jouer contre ton équipe et qui prend un contre 5 parce que le moment où il part dans la raquette, il saute et il tomare sur le... Je sais plus qui est là-dessous, mais je me dis, mais enfin là, ça sert plus à rien. Il est juste en train d'écraser tout le monde. Et c'était un peu kiffant à regarder. Et donc j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, parce que pour moi, je pense aussi que ils ont vu qu'il allait bien se développer et que l'année prochaine, ouais, ils ont pris Barnes. Et pour la free agency, je sais que Siakam l'année prochaine est free agent, et je verrais bien si Keegan se développe beaucoup. Faire un move à la trade deadline d'envoyer Barnes et de récupérer Siakam parce que Toronto va être en panique de le perdre contre rien. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Keon Ellis parce que je trouve que, ouais, en troisième meneur, il pourrait faire une bonne option si on n'a pas pris quelque chose avant le début de la saison. Là.
Flo, sur Keegan Murray, t'avais des trucs à dire.
Sincèrement, moi, je suis. Époustouflé par Keegan Murray. Pas par la quantité de points en soi, mais c'est son cheminement, sa prestance, sa conduite. Je le trouve vraiment bluffant pour un rookie. À quel point il est méthodique dans sa progression et tout ça sans jamais tirer la couverture à lui et toujours en ayant comme objectif comment il peut être le plus efficace pour l'équipe et avec l'équipe. Et puis, sa progression, vraiment, ouais, bon, je trouve que c'est un robot, quoi. Un robot. Le gars, il arrive, bon, d'accord, je mets mes shoots. Ah, il faudrait que tu défendes. Ok, bah, je défends tout le monde. Ah, il faudrait que tu prennes des rebonds. Ok, bah, ça y est, je prends des rebonds. Bon, bah, il faudrait que tu, maintenant, il faudrait que tu t'arrêtes de faire que du catch and shoot. Il faudrait que tu prennes un peu les choses en main. Ok, bon, bah, je vais aller à la Summer League. J'explose tout le monde. Et vraiment, ouais, moi, il m'épate. Il m'épate et j'ai. Enfin, c'est pareil, c'est une qualité qu'on sous-estime beaucoup. Tu vois qu'il en a plein la caboche, quoi. Tu sais qu'il sait exactement. Il a une lucidité sur son jeu, sur ce qu'il peut apporter et sur ce qu'il doit développer. Qui est impressionnante pour un jeune joueur.
Je pense que son plafond n'est pas si bas que ce qu'on a voulu nous faire croire au moment de sa draft et qu'il a vraiment, ouais. Que vraiment là, il a quand même beaucoup, beaucoup de progression. Comme tu as dit, c'est plus un simple catch and shooter. Là, vraiment, on l'a vu sur ces deux matchs de Summer League, vraiment faire des trucs qu'il ne fait pas habituellement. Il y a eu du déchet parce que voilà, c'est pas un énorme dribbleur, il n'a pas un handle de fou et tout, mais on sent qu'il a envie de développer tous les secteurs de son jeu sur lesquels il a un peu pêché ou qu'il n'a pas trop utilisé dans son répertoire tout au long de la saison, à commencer par créer son propre tir, aller tirer en pull-up à mi-distance ou attaquer le cercle ou dribbler, porter la balle ou défendre un mec plus mobile que lui. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Parce que je m'attendais absolument pas à le voir en Summer League. J'étais le premier surpris à me dire « Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi Keegan joue ?» Et un peu comme tout le monde, en fait, que ce soit les médias Kings ou les autres médias, ils se sont dit, mais qu'est-ce que Keegan fout là? Puis finalement, en fait, on a vraiment compris que c'était pour faire ses gammes, quoi, ni plus ni moins. C'était un open gym pour lui, quoi. Il est rentré, c'était un joueur NBA contre des enfants. Puis il a cartonné tout le monde, il a mis 70 points en deux matchs avec des pourcentages, laisse tomber, 41 points sur le deuxième. Enfin bref, voilà, il a fait exactement ce que j'attends d'un joueur de ce niveau-là, un joueur de deuxième année en Summer League, c'est-à-dire qu'il a vraiment montré que c'était lui le patron et voilà, et qu'il allait bosser. Il a dominé comme il devait dominer, quoi.
C'est peut-être ça le plus, comment dire, le plus incroyable, c'est que le mec, il est simplement sophomore entre guillemets. Et tout le monde s'est posé la question en disant, mais qu'est-ce qu'il fout là? Alors qu'à la base, c'est juste un sophomore. T'as beaucoup de sophomores, enfin beaucoup. Des rookies qui n'ont pas forcément joué les dernières, qui font la Summer League en sophomore. J'ai vu, il y avait Jovic à Miami, qui est sophomore aussi. Mais il a tellement montré, il a tellement progressé durant son année, que là, effectivement, on dirait un enfant, un daron avec des enfants. Et la première action qu'il fait contre les Warriors, où il met un méga Thomas. Ça m'a rappelé la première action de Marvin Bagley.
C'est vrai.
Il y a un Thomas sur tous les Lakers. Ouais. J'ai pensé à ça direct. Bon, la trajectoire n'est pas la même au final. Mais sur la première action, tu vois ça. En fait, il a fait que deux matchs, en fait. On le verra que sur ces deux matchs.
Ouais, c'est
ça. Il n'y a pas besoin de plus. Il est venu deux matchs. Il a montré, bon, vous êtes mignon, mais je vous pète la bouche. Et je reviendrai qu'en octobre. Maintenant... Il est parti à Las Vegas, hein. Il suit quand même l'équipe avec,
ouais, il s'entraîne
avec laquelle il s'entraîne, mais il jouera pas. Bon, on va pas se mentir, hein. Quand tu vois la gueule du roster, c'est pas cette année qu'on va garder le titre, enfin, qu'on va reprendre un titre de Summer League avec le fameux boom. Donc, le fameux boom, je crois que je l'ai même pas vu jouer.
Je veux le signer juste pour le nom, juste pour le blaze.
Ouais, c'est ce que disait Simon tout à l'heure, hein. On revient sur les blazes.
On pourra faire des t-shirts light de boom.
Et l'autre, ouais, comment il s'appelle? Comanche, là?
Ouais, il y a Comanche. Mais là, tu sais, enfin, quand tu vois les deux premiers matchs qu'a pu faire Keta, tu t'attends à ce que ça soit lui, Ken Ellis et Kessler Edwards qui prennent le relais de Keegan Murray. Mais quand je vois les deux premiers matchs du pivot portugais, voilà, je suis pas hyper optimiste. Je crois que ça commence dès cette nuit.
Ouais, Atlanta,
c'est Atlanta, ouais. Ouais, on va regarder ça d'un œil parce qu'on va pas se mentir, hein, sans Keegan Murray, ça a moins de saveur.
Moi, je suis juste curieux, comme tu dis, de voir qui va prendre le lead, qui va occuper un peu ce rôle de patron dans l'effectif. C'est plus ça qui m'intéressera sur les matchs de Summer League à Las Vegas, mais après, sinon, les matchs n'ont pas trop d'intérêt, quoi. J'aimerais bien voir un peu plus de Colby Jones, voir vraiment ce qu'il a dans le slibar et voilà. Qu'il envoie les autres, et Keon Ellis aussi, les autres, j'en attends pas trop. Keta, comme on en a parlé tout à l'heure, il a des limites qui sont beaucoup trop flagrantes, et j'espère qu'il nous donnera tort, hein, sur les matchs suivants, mais je le vois pas exploser forcément cette saison, quoi.
Son rebond est assez cata. Hein. Il en prend parce qu'il est plus grand que tout le monde, mais t'as l'impression qu'il saute à contre-temps à chaque fois, quoi. Et puis, je sais pas, il a un problème d'équilibre. Il est, à chaque fois, t'as l'impression qu'il est à deux doigts de se casser la gueule à chaque action.
On dirait. Là, tu pars de travers à chaque fois.
Ouais.
Il joue comme quand tu joues à Touquet et que tu vois un mec faire nimp et que tu fais putain, le jeu il est buggé, les mecs sautent mal. Moi, je m'en dis parce que son bras disparaisse, parce que c'est buggé ou un truc comme ça. Parce qu'il a vraiment les attitudes des joueurs mal programmés qui vont bloquer sous le cercle comme ça. Ou... Il est bizarre. Mais je pense que t'as mis le doigt sur un truc, on rigole. Mais effectivement, le fait qu'il ait une coordination qui a l'air complètement à l'ouest, alors que normalement, je pense qu'il n'y a pas de raison. S'il arrivait là, tu vois, c'est un athlète, il a l'air perdu. Et je pense qu'il y a un gros travail de tout simplement de base. C'est bête, hein, mais je crois qu'il peut être bon, mais je crois qu'il faut vraiment commencer par certaines bases. Et ça me fait c'est assez simple, en fait. Et je pense qu'il le garde pour ça, parce qu'il est quand même physiquement, il y a un potentiel. Mmh. Et peut-être que cette année, ça me permet de rejoindre ce que je voulais dire sur Keegan. On va voir les bénéfices d'être une meilleure équipe aussi, ce qu'on n'avait pas vu depuis quasiment 20 ans. Parce que Murray, si on le draft il y a 4-5 ans, je pense que jamais on en parle comme ça la deuxième année, en mode sophomore, en Summer League, qui fait penser à Kawhi Leonard, qui arrive comme un robot, qui est au-dessus, qui, là, le deuxième match, moi, je regardais les highlights par plaisir. Visuellement, il y a le step back, là, où il commence à, il drive fort, il repart à gauche sur son shoot en step back, mais c'est Jason Tatum, quoi. C'est là, genre, mais depuis quand tu sais faire ça, toi? En fait, il arrive à faire très simplement des trucs très durs, à se créer de la séparation sur un ou deux dribbles, vraiment des séparations de 2-3 mètres, où après, il peut prendre son shoot tranquille. Il y a même des shoots non contestés, et ça, il y en aura même aussi en NBA, parce que il est parti à droite, il s'est arrêté bloqué, tac, il rentre dans le shoot, et le mec fait bon, ok, et shooter comme il est, franchement, c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est qu'il a vu, il est un peu lent, mais ses appuis sont très bons, très puissants, moi, je trouve. Et c'est vrai que ça fait penser aux, c'est des vrais gros appuis déliés, mais du coup, derrière, t'as une qualité de shoot qui fait que, il y a quand même des ficelles, hein, derrière des step back et tout, des vrais, quoi. Il y en a un aussi où il vient derrière le 3 points, il fait mine de monter tout de suite, il pose un dribble, il repart à gauche, je crois, il envoie, boum, ficelle. Et ça, je pense qu'il, même lui, ça doit lui faire du bien parce qu'il va se rendre compte que ces points-là. Alors, je suis d'accord avec toi, Florent. Dante Green, j'ai été vérifié parce que j'avais un doute. Dante Green met 40 points en Summer League. Donc, faut vraiment. Mais je pense que c'était pas de la même façon. Enfin, j'imagine que c'était pas aussi propre.
Il y avait pas Ray McCallum aussi qui avait été MVP de Summer League de mémoire.
Je crois qu'il met 40 points, mais il est MVP de Summer League complètement.
Ouais, c'est ça. Hein. Époque.
Mais pour finir sur Murray, moi, j'ai presque même. Alors, c'est pas du tout pour. Mais j'ai presque un peu peur parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Mais vraiment, là, les progrès de Murray. Et j'ai même peur que 2-3 équipes se disent alors attends, la fin de son contrat rookie, c'est quand les Kings avec la thune de Sabonis et tout. Et je pense qu'il y a même des. Non, mais je pense qu'il va falloir assez vite que McNair se dise faut au moins une extension d'un an. Moi, ça me rassurerait, là. Une extension d'un an, deux ans, de lui donner de l'argent dès qu'on peut et tout. Parce qu'honnêtement, je pense que ça, c'est le genre de joueur. Des équipes comme Milwaukee, quand ils vont se dire en fait, Middleton, il a le genou pété, est-ce que le remplaçant naturel, c'est pas Chris Murray, par exemple, tu vois? Keegan Murray, pardon, des choses comme ça et tout. Donc je pense qu'il va falloir aussi très vite se dire que nous on en profite, on rigole et tout, mais je pense que là toute la ligue l'a vu et on va voir aussi le. Tout à l'heure je commençais par l'avantage d'être devenu une bonne équipe, mais on va voir aussi le désavantage, c'est que on rentre dans la cour des grands aussi là. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper, on va avoir des joueurs qui vont être convoités, ce qu'on n'a pas eu non plus depuis très longtemps.
C'est vrai.
Et pensez pas ça que Keegan Murray a dû taper dans l'œil de la moitié de la ligue là en disant mais parce que là il a 23-24 ans, il a une adresse à 3 points redoutable. Physiquement, moi, je trouve qu'il s'est étoffé, là.
Il a pris quelques kilos, cet été, déjà.
Et il n'est pas loin de l'ailier moderne parfait. Enfin, là, tu te dis, il y a beaucoup d'équipes où tu te dis que Murray, ça joue tranquillement, c'est 30 minutes par match, quoi.
Bah ouais, c'est surtout que tu vois l'axe de progression, quoi. Tu te dis que vraiment, là, il a commencé à montrer des trucs, comme tu dis, un peu à la Tatum, là, aller chercher des tirs, ressortir en step back, etc. Moi, il y a une action où vraiment, j'ai eu l'impression de voir Fox, parce qu'il est en haut, il est à 45 en haut à droite, il part main gauche, il stoppe à la ligne des lancers francs et puis il prend son shoot en fade away en arrière. Et je me suis dit, putain, en kickant avec la jambe droite comme le fait Fox un peu. Et je me suis dit, putain, mais vraiment, il assimile trop bien ce qu'on lui apprend, quoi. Je me dis, c'est pas un hasard s'il nous sort un move comme ça, s'il sort un move de Fox comme ça en Summer League. Je pense que vraiment, il apprend plein de trucs, il l'engrange et voilà. On a un peu fait la vanne du robot kawaii, etc. Mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, on lui dit un truc, il assimile, et puis il ressort, et puis il a le taffé le plus possible, quoi.
J'en remets une couche, ça change des joueurs qui tout l'été te font des mixtapes sur Instagram de leur dribble et leur panier à 3 points et puis qu'ils arrivent en octobre, ils jouent pas parce qu'ils sont pas fichus de prendre un rebond, tu vois.
C'est Willy, ça c'est spécial. Il met des 3 points, il met ce que tu veux et puis après il prend un rebond.
Exactement.
Les intérieurs qui enchaînent 103 points tout seul, dans leur gymnase avec de la musique de Lil Durk à fond.
Hein. C'est trop ça.
Mais ceci dit, pour l'humour, pour la légende, la science, pour l'humour, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais beaucoup une vraie fausse mixtape de Keegan Murray qui fait semblant, justement, il a un sens de l'humour un peu comme ça, tu sais, qui fait semblant de faire des dribbles de ouf, mais qui en fait fait juste un dribble tout bidon. Et tu sais qu'il la poste sur ses réseaux en faisant ouais, my summer mixtape, tous les dunks tout nul, le vieux dunk à une main tout pas puissant, tu vois. Parce qu'il est capable, j'ai l'impression que c'est son sens de l'humour.
Ah, mais c'est lui, il joue trop ce côté, le mec normal, quoi. Genre vraiment, voilà la vidéo qui est sortie, ce que les Kings ont sorti sur Insta, ça m'a fait trop rire, quoi. Quelle est votre destination de rêve? Et là, t'as tout le Twitter qui te sort Hawaï, Fidji, Paris, Philippines, je sais pas quoi. Et puis t'as l'autre qui arrive et dit l'Iowa. Ouais, j'y suis déjà allé, j'aime bien. Je sais pas s'il est second degré ou si vraiment il est dans son délire. Genre, il aime pas les trucs superficiels et tout. Et vraiment, lui, son bail, c'est de faire son truc.
Je pense qu'il cache un peu. Hein. À chaque fois, il a ce petit sourire, tu sais, qui est en coin de lèvres où tu sens qu'il a un peu envie d'exploser. Même quand l'année dernière, il y avait pas mal de replays où Ivan Thomas ou Sabonis le pousse et tout. Et tu vois qu'il essaye de pas réagir, mais qu'il y a un peu en lui qui a envie d'exploser. Et de...
Ouais, il doit jouer un peu avec cette image. Bon, ben.
Il faut pas oublier qu'en université, il a fait un énorme saut hein, entre sa première et deuxième saison. Donc là aussi, hein, je pense que c'est pas un hasard, c'est que vraiment. Comme on l'a dit là pendant tout le podcast, il a vraiment une capacité à assimiler, il encaisse, il engrange, et puis après, bam, il met en application et il produit.
Même au niveau des lancers francs, le nombre de lancers francs qu'il prend pendant les deux matchs, là, c'est impressionnant par rapport à l'année dernière.
Je crois que son record là en NBA, c'est 5 lancers francs à tenter.
C'était hein. 5 et là, il est...
Il en fait 25 en deux matchs ou un truc comme ça. 25
ou 26.
Ah, mais de toute façon, si lui devient, entre guillemets, par séquence, hein, mais sur des cartons, etc. et tout, une vraie attitude à un moment... En plus, dans notre attaque, ça fera du bien, je pense, parce qu'elle peut être... On va être mieux scouté et tout, elle peut être un poil prévisible aussi. Si on a un ailier, effectivement, qui de temps en temps, un contre un et indéfendable, et plante comme ça, 4, 5 shoots, hors, entre guillemets, hors système et tout, on peut vraiment passer un cap. Et moi, surtout, c'est aussi, on n'en a pas assez parlé, je trouve. Il a pris goût. Alors, c'est que la Summer League et il doit s'amuser à défendre des mecs qui viennent d'une naïveté. Enfin, on dirait des enfants en trottinette quand ils débarquent dans la raquette pour la Summer League. Mais j'ai l'impression que défensivement, il a compris aussi qu'il a des capacités, que c'est peut-être pas le plus rapide, mais qu'il a un certain QI basket et tout. Moi, c'était pas mal de le voir défendre comme ça. En Summer League, de mettre des contres, et même en ayant regardé des bouts un peu de match, du match, etc. et tout, il est. Je sais pas comment dire. Alors que c'était pas nécessaire, il s'est appliqué à défendre sérieusement.
Ouais. Et il défend. Et quasiment les deux matchs, ils l'ont fait défendre sur le meneur adverse.
Ouais, il défendait sur le porteur.
Et voilà,
de balle,
et c'est ça que je veux dire dans l'évolution qui est intéressante. Et ça, je me demande ce que ça mijote, l'idée qu'il aille. Alors est-ce que c'est juste pour le faire bosser? Est-ce que c'est l'idée de commencer à l'envoyer en mission sur le porteur de balle adverse de temps en temps pour cacher Fox? Je sais pas. Mais je surveillerai aussi en défense. Il y a peut-être un truc là avec lui, il a un profil intéressant parce qu'il est, il est capable de défendre plusieurs postes, dont les porteurs de balles, effectivement.
Ce qu'il n'a pas en rapidité, il a quand même, il est long, hein, il a quand même une belle envergure et tout. Et puis, comme tu as dit, un QI basket, il est capable d'anticiper et tout ça. Donc, il peut être couteau suisse en défense.
Parce que si lui prend une vraie mesure de joueur défensif, il prend goût. Et qu'on continue à montrer le sérieux avec Mike Brown, etc., qu'on a montré l'an dernier, que Sabonis continue à signer des concepts qui le protègent un peu, tout ça et tout. Moi, je pense clairement, enfin, je ne suis pas le seul, hein, tout le monde le voit, mais c'est là où l'équipe a de loin la plus grosse marge de progression, défensivement, même si elle fait des efforts et tout, il y a encore des... Et si Murray, en plus, ajoute ce truc-là, s'il commence à faire parler lui défensivement, justement parce qu'il a un côté, on en revient, mais capable d'aller chercher, entre guillemets, comme ça, sur des possessions, un meneur... Enfin, on va peut-être voir des séquences où il va défendre un All-Star et puis le limiter au shoot, des choses comme ça et tout. Là, ça va devenir carrément hyper excitant de voir son développement. Et vraiment, on risque de voir encore plus les bénéfices d'être une bonne équipe. En fait, ce qu'on avait, c'est le côté on me prête Corey, je me lave l'autre, etc. Mais de se rendre compte qu'on bonifie comme ça un mec, si on avait drafté il y a 2-3 ans, il aurait sans doute voulu se barrer ou des choses comme ça. Moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment là aussi que j'attends l'an prochain, quoi, de voir les bénéfices du long terme, d'avoir passé un cap, d'être devenu une vraie structure de basket, une vraie équipe, quoi.
Après, c'est le fait de repartir avec le même groupe, au-delà de la progression collective, hein, qui est toujours possible. Pour moi, ouais, les trois gros axes de progression, c'est Keegan Murray, c'est l'apport de Vezenkov, pour le moment qui est un gros point d'interrogation, mais on a quand même de quoi espérer. Et puis, je mettrai quand même en trois Davion Mitchell. Hein, je pense qu'il a la capacité encore de passer un cap, surtout en attaque, et d'apporter un peu plus. Mais bon, là, je me projette déjà sur le prochain podcast de la saison à venir.
Voilà, donc on se fera un gros podcast en mode preview, etc. Peut-être on fera un petit peu le bilan de l'été, s'il se passe encore des trucs, plus une grosse preview de l'année. En tout cas, on va se quitter sur ces belles paroles sur Keegan Murray et on va continuer de rêver sur ce qui peut nous arriver la saison prochaine. En tout cas, merci messieurs, c'était un plaisir d'échanger sur ces sujets-là avec vous, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve... Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast et donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.